Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 15, Daf Tet Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Institution pour les rivales, et j'ai passé Daf Tet Vav à Moudalef, qu'on leur fasse qu'elles soient sujettes à la Khalitza et pas au Iboum, et donc pour Beth Hillel, il n'y a pas de problème pour ces femmes de se marier avec quelqu'un d'autre étant donné qu'elles ne sont pas concernées par le Iboum. Et pour Beth Shammai, une fois que ces femmes ont été sujettes à la Khalitza, elles pourront se marier avec n'importe qui. L'Oispiku Ligmor et Adavar, Hatshinit Refa et Nashara. Ils n'ont pas eu le temps de clore cette mesure avant que le temps ne se gâte. Je suppose que c'est le grand tribunal qui a été dispersé et donc ils ne pouvaient plus instituer cette mesure. Amarli Rabban Shimon Ben Gamliel. Rabban Shimon Ben Gamliel lui a dit à Rabbi Yochanan Ben Nouri, Mana Selaem Latzarot Arishonot. Maintenant que tu veux instituer qu'on ne fasse pas le hiboum, qu'est-ce que tu vas faire avec les cas de rivales d'inceste qui jusqu'à maintenant étaient sujettes au hiboum et qui donc d'après ce que tu nous dis sont nés des mamzerim de ces cas de hiboum? Naturellement, demande Yamarta Bishlama Asu. Ça va bien si tu me dis que Beth Shammai ont agi en fonction de leur avis. Aïno de Kamar Manassé, c'est pour ça que Rabban Shimon Ben Gamliel a demandé à Rabbi Yochanan Ben Nouri, qu'est-ce qu'on va faire avec les cas qui ont suivi l'avis de Beth Shammai? Et là, Yamarta Lo Asu, mais si tu me dis que Beth Shammai n'ont pas agi en fonction de leur avis, Maï Manassé, qu'est-ce que ça veut dire cette question de Rabban Shimon Ben Gamliel? Qu'est-ce qu'on va faire avec les cas qui ont suivi l'avis de Beth Shammai? Si personne ne les avait suivis. Amar Nachman Bar Yitzhak, Amar Nachman Bar Yitzhak répond, Lo nitzrecha ela letzara atzma. Tout ce que Rabban Shimon Ben Gamliel a demandé à Rabbi Yochanan Ben Nouri, ce n'est que pour la rivale elle-même. Umana Asé, et quelle est sa question? Achika Amar, c'est ça qu'il a demandé. Hanach tzarot de Beth Hillel, le Beth Shammai yechina avid. Ces rivales d'inceste, d'après Beth Hillel, qui donc ont suivi la vie de Beth Hillel jusqu'à maintenant, et se sont remariés sans Khalitza, et Beth Shammai yechina avid lehu, toi qui veux arranger pour tout le monde, comment pour Beth Shammai, on va pouvoir les permettre à leur mari, l'ichatsu, si maintenant on va leur faire une Khalitza, mimas yagavayu. Elles vont être dédaignées de leur mari du fait qu'un autre homme se place comme celui qui détient un pouvoir sur la vie maritale de cette femme. Et si tu me dis, eh ben c'est pas grave, elles n'ont qu'à être dédaignées de leur mari, pourtant on tient une généralité dans la Torah, que ces chemins sont des chemins agréables, et ces voies sont des voies de paix. Le Rizva explique qu'une fois que la halakha est comme Beth Hillel, on ne va pas pour gagner la vie de Beth Shammai rendre une femme répugnante aux yeux de son mari. Tashma, l'agma rapporte une tosefta. D'abord Rabbi Tarfon a dit, Taevni matay tavot sarat abat leyadi, vesaevna. Je suis impatient du jour où se présentera devant moi le cas de la rivale de la fille, que je puisse la marier, c'est-à-dire que je puisse lui faire le hiboum. Et donc on voit que Rabbi Tarfon, qui était de l'école de Shammai, était impatient de pouvoir accomplir en fonction de la vie de Beth Shammai. Et donc tu vois que Beth Shammai ont oui agi en fonction de leur avis. La Gemara répond, Emma va à Siena. Rabbi Tarfon n'a pas dit, je vais me marier avec elle, mais je vais la marier, c'est-à-dire je vais la marier avec quelqu'un d'autre sans même qu'elle fasse de Khalitza comme Beth Hillel. Zéa Taevni Kamar, et pourtant il a dit je suis impatient, donc ça veut dire qu'il veut faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Or, on a l'habitude de suivre la vie de Beth Hillel et toutes ses rivales d'inceste, on les marie sans Khalitza. Et la Tchagma répond à Fouke Midrabi Yochanan Ben Nouri. Que Rabbi Tarfon était impatient que ce cas se présente devant lui, pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri et cette sa mesure qu'il voulait prendre de faire la Khalitza pour pouvoir arranger ses femmes, même pour la vie de Beit Hillel. Tashma, la Gemara apporte une braïta. Masé bebito shel Rabban Gamliel, shaita nesua le'aba achiv. Il y a eu une histoire avec la fille de Rabban Gamliel qui était mariée à Abba, le frère de Rabban Gamliel, Oumed Belobanim, et Abba est mort sans enfant. Veibem Rabban Gamliel et Tsarata. Et Rabban Gamliel a fait le hiboum avec la rivale de sa fille. Et donc on voit que Rabban Gamliel a agi en fonction de la vie de Beit Shammai, qu'on peut faire le hiboum à la rivale de l'inceste. La Gemara demande, Véetisbera, est-ce que tu penses vraiment comme ça? Rabban Gamliel, mitalmide Beit Shammai, ou est-ce que tu penses que Rabban Gamliel il était des élèves de l'école de Shammai? On sait bien que Rabban Gamliel faisait partie de l'école de Hillel. Et là, Shane Pitoche Rabban Gamliel, Daïlonit Ava. Mais on est obligé de dire que comment ça se fait que Rabban Gamliel a fait le hiboum avec la rivale de sa fille? C'est parce que ce cas était un cas spécifique, où sa fille était stérile. Et comme on l'a vu dans la première Mishnah, Im Nimtseu Aïloniot, Tsarotel Moutarot, si tous ces cas d'inceste se sont avérés être stériles, leurs rivales seront permises. Et donc c'est pour ça que Rabban Gamliel a pu se marier avec la rivale de sa fille. Et la Gemara demande, Hamide Katan et Sefa Acherim Omrim Bitosh Rabban Gamliel Aïlonit Aïta. Étant donné que la fin de cette braïta nous dit que d'autres disent que la fille de Rabban Gamliel était stérile, Miklal de Tanakama Savar, la Aïlonit Aïta. Donc je déduis que le premier Tana de cette braïta ne pensait pas qu'elle était stérile. Et donc, a priori, il faudrait dire que, d'après le premier Tana, Rabban Gamliel s'est marié avec la rivale de sa fille qui était une rivale d'inceste. Si la Gemara répond, on ikirba velo ikirba ikabinayu. Leur point de discussion est sur le cas où Abba, le défunt, s'était rendu compte que la fille de Rabban Gamliel était stérile. D'après Tanakama, il s'agit du cas où Abba ne s'était pas rendu compte qu'elle était stérile. Et maintenant, après sa mort, qu'on sait qu'elle était stérile, il s'avère que son mariage avec la fille de Rabban Gamliel est annulé rétroactivement. Et donc, la rivale de cette fille n'est pas considérée comme sa rivale, et Rabban Gamliel pouvait faire le hiboum avec celle-ci. Tandis que le deuxième Tana de la Mishnah pense que même dans un cas où il s'est avéré qu'elle était stérile du vivant de Abba, et que Abba l'a gardée comme femme, et donc sa rivale est oui, la rivale de la fille de Rabban Gamliel, mais du fait que cette fille était stérile, Rabban Gamliel pourra faire le hiboum à sa rivale. Et c'est ce que Acherim, les autres, précisent, Aïlonit Aïta. Elle était Aïlonit, c'est-à-dire elle était déjà considérée comme Aïlonit au moment de la mort de Abba. Deibaïtima, je pourrais te donner une autre explication à cette discussion entre les deux Tanaïm. Kanas Ulbasov Giresh Ikabinayu. Ils discutent sur le cas où le défunt s'est marié avec la rivale avant de divorcer l'inceste. D'après Tanakama Mitama Pelet, c'est au moment de la mort que le lien du hiboum se crée, et donc si à ce moment-là elles n'étaient pas rivales, elles ne sont pas considérées comme rivales pour le hiboum, et donc il y aura possibilité de faire le hiboum pour la rivale de l'inceste. Et c'est ce qui s'est passé avec la fille de Rabban Gamliel, qui a été divorcée avant la mort du défunt, bien qu'elle ait été rivale avec l'autre femme pendant un certain moment, Rabban Gamliel pouvait quand même faire le hiboum à la rivale de sa fille. Tandis que Acherim, les autres, pensent que Nisuim Mapinim, c'est le mariage d'une femme avec le défunt qui la lie au beau-frère pour le hiboum. Et donc, du moment que deux femmes ont été rivales, elles sont considérées rivales pour le hiboum. Et donc, du fait que cette fille de Rabban Gamliel a été à un certain moment rivale avec cette femme, il faudra dire que c'est parce que la fille de Rabban Gamliel était stérile qu'il a pu faire le hiboum à sa rivale. Je pourrais te dire encore une autre possibilité d'expliquer la Braïta. Ils discutent sur le cas de celui qui se marie, à condition que la femme qu'il épouse n'ait pas de vœux ou de défauts corporels. Est-ce qu'après avoir eu un rapport conjugal avec sa femme, il tient toujours à sa condition ou pas, d'après Tanakama? Après un rapport conjugal, il tient toujours à sa condition, et donc c'est le cas du mariage de Abba avec la fille de Rabban Gamliel, qui était sous condition, et comme la condition n'a pas été accomplie, le mariage est considéré comme nul rétroactivement, ce qui fait que la rivale et la fille de Rabban Gamliel n'étaient pas rivales. Et donc c'est pour cela que Rabban Gamliel a pu faire ce hiboum. Tandis que les autres pensent que dans un tel cas, s'il y a eu un rapport conjugal, le mari ne tient plus à sa condition, du fait qu'a priori, un homme ne se permet pas de causer par lui-même qu'il ait un rapport conjugal de débauche. Et donc, cette fille de Rabban Gamliel était mariée à Abba. Et il faut dire qu'elle était ilonite pour justifier le hiboum de Rabban Gamliel. Et donc, on peut expliquer cette braïta sans pour autant dire que Rabban Gamliel a agi en fonction de l'avis de Beit Shammai. Même-t-il Rav Mecharché objecte, Maaseh Berabbi Akiva, on rapporte une histoire avec Rabbi Akiva, chez Liket Etog Be'echad Bishvat, qui accueillit un Etog, le premier Shvat, Venagbo Shtei Isurim, et il a procédé à deux prélèvements, Echad Kedivrei Beit Shammai, l'un en fonction de l'avis de Beit Shammai, Ve'echad Kedivrei Beit Hillel, et l'autre en fonction de l'avis de Beit Hillel. Il y a un cycle des 7 années de Shemitah pour les prélèvements. Pour les 6 premières années de ce cycle qui précède la Shemitah, qui elles sont concernées par les prélèvements, les deux premières, la 4e et la 5e année, sont des années où le prélèvement est le maaser sheni, c'est-à-dire un prélèvement que l'on doit manger à Yerushalayim. Et les 3e et 6e années, on prélève le maaser ani, qui est un prélèvement pour les pauvres. Et on change d'année en fonction de la cueillette des fruits, si elle s'est faite avant le 15 Shvat pour Beit Hillel et avant le 1er Shvat pour Beit Shammai. Donc, si par exemple au passage de la 2e à la 3e année, le 1er Shvat, on cueille un fruit, d'après Beit Shammai, c'est déjà la 3e année, il faut faire le Maaser Ami. Et d'après Beit Hillel, on est encore dans la 2e année, et il faut prélever le Maaser Sheni. Et c'est ce qui est arrivé à Rabbi Akiva, qui a cueilli un étrog, le 1er Shvat. Et donc d'après Beit Shammai, il était déjà dans l'année qui vient, et d'après Beit Hillel, il est encore dans l'année passée. Et on dit qu'il a prélevé les deux prélèvements, et le Maaser Ani, et le Maaser Sheni. Tosfot Venag nous précise comment pratiquement il a procédé à ces deux prélèvements en même temps. Donc la Gemara dit Shvamina Asu, donc je déduis que ils ont oui agi en fonction de l'avis de Beit Shammai, de ce qu'on voit que Rabbi Akiva a prélevé aussi en fonction de Beit Shammai. La Gemara répond Rabbi Akiva Gamrei Istapekle. Rabbi Akiva ne savait pas par lui-même laquelle des dates était juste. Et il ne savait pas non plus ce que Beit Hillel avait dit. S'ils avaient dit que c'est le 1er Shvat ou le 15 Shvat que les années changent. Donc, Rabbi Akiva n'a pas procédé à ces deux prélèvements pour suivre l'avis de Beit Shammai. Mais si Marzoutra objecte, Maaseh ve'yalda kalato shel Shammai Hazaken, on rapporte un cas où la belle-fille de Shammai HaZaken a eu un enfant, où Pichet et Tama Aziva, Vesiker al Gabe Mita Bishvil Katan. Et Shammai HaZaken a défait la toiture, Vesiker al Gabe Mita Bishvil Katan, et il a mis un sar au-dessus du lit du bébé. C'est-à-dire que c'était Sukkot, et il voulait que le nouveau-né soit en dessous d'un toit de Souka. Et Shamaï Azaken réagit ainsi du fait qu'il pense, contrairement à Hillel, qu'un enfant, même s'il a encore besoin de sa mère, se doit d'être en dessous d'un toit de Souka. Donc je lui dis que Beth Shammai aura agi en fonction de leur avis. Ma réponse, Atam Aroé, Omer l'a fouché à vivre qu'à vide. Dans ce cas-là de Shammai, celui qui voit que Shammai Azaken est en train de défaire le toit, se dit qu'il a besoin de rajouter des courants d'air. Et donc, comme toute la raison pour laquelle on dit que Beth Shammai n'ont pas agi en fonction de leur avis, c'est à cause du problème de l'otit Godedou, qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y a plusieurs manières d'accomplir la Torah. Comme dans ce cas-là, on n'est pas obligé de comprendre que c'est une différente manière d'accomplir la Torah, ça ne dérange personne que Shammai agit en fonction de, son avis. N'es-tu Marzoutra? Marzoutra objecte, il rapporte une Mishnah de Mikvot. Avant de commencer cette Mishnah, je vais juste préciser quelques points. Une personne ou un objet impur, pour se purifier, doivent obligatoirement être trempés dans un bassin qui contient au moins 40 séra d'eau de pluie. Si deux bassins sont reliés par un trou d'une certaine grandeur, comme on le verra plus loin, on considère qu'il n'y a qu'un seul bassin. Et donc, s'il y a dans les deux bassins à la fois la quantité nécessaire de 40 séra, les deux bassins sont aptes à purifier. Et de même, si un des bassins contient 40 CA d'eau de pluie, même si l'autre bassin contient de l'eau puisée qui n'est pas valable pour un mikvé, les deux bassins sont considérés comme un seul mikvé contenant 40 CA d'eau de pluie. Maintenant, je commence la Mishnah que Marzoutra rapporte. Maase Beshoket Yehou. On rapporte le cas de l'abreuvoir Yehou qui était constitué d'une pierre creuse. Shaita Yerushalayim, qui était à Yerushalayim. Et cet abreuvoir était relié par un trou à un autre bassin. Et on y trempait tous les objets à purifier de Yerushalayim. Et Beth Shammai a envoyé quelqu'un pour élargir ce trou jusqu'à ce que la majeure partie de la paroi entre l'abreuvoir et le bassin soit ouverte. Chez Beth Shammai Omrim, étant donné que Beth Shammai pense à Tchetipachet Beruba, que deux bassins ne sont considérés comme un seul bassin que lorsque la majeure partie de la paroi reliant ces deux bassins est détruite. Etnan, et on a une Mishnah, Iruv Mikvaot, le mélange de deux bassins, c'est-à-dire pour que deux bassins soient considérés comme un seul, il faut qu'il soit relié par un trou large comme le diamètre extérieur d'un tuyau de jonc qu'on met dans la bouche de l'oiseau Nod. C'est-à-dire qu'on puisse rentrer ce tuyau avec son épaisseur dans le trou reliant les deux bassins. Ce qui correspond à un trou d'une taille de Kishte Etzbaot Chazrot Nimkoman. Un trou dans lequel on peut rentrer deux doigts et faire un tour complet. Donc, il faut que ce trou comprenne au moins le cercle de diamètre de deux doigts. Donc, ce qui se passe, c'est que cet abreuvoir de Yehou ne pouvait être considéré comme un mikvé que si on le joignait au bassin d'à côté. Et au départ, cet abreuvoir était relié par un trou suffisamment grand pour Beth Hillel, c'est-à-dire un trou qui se fait offrir à Tanod. Et la Mishnah nous dit que Beth Shammai ont élargi ce trou du fait qu'ils pensent qu'on ne peut considérer deux bassins reliés que si la majeure partie de la paroi les reliant est détruite. Donc c'est pour ça que la Gemara dit Shma Mina Asu, donc je déduis que Beth Shammai ont agi en fonction de leur avis, puisque je vois que pour qu'ils puissent utiliser le mikvé de l'abreuvoir de Yehou, ils sont venus élargir la paroi. La Gemara répond Hatam. Là-bas, dans ce cas du mikvé, je tourne après Mahamoud Bet.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Je tourne après Mahamoud Bet. Aroué Omer l'a fouché Maya ou des Kavid. Celui qui voit train de détruire la paroi entre les deux bassins peut interpréter cet acte comme un acte séculier, que ce n'est que pour augmenter la quantité d'eau dans l'abreuvoir qu'ils ont cassé la paroi. Et comme la raison de celui qui pense que Beth Shammai n'ont pas agi en fonction de leur avis et à cause du problème de l'otit godedou, que pour ne pas qu'on ait l'impression qu'il y a plusieurs manières d'accomplir la Torah, comme cet acte ne s'interprète pas obligatoirement comme un acte religieux, il n'y a pas de problème de l'otit godedou. Tashma, on rapporte une braïta. D'abord, Rabbi Yehuda ben Tzadok a dit que j'étais dans la Torah de Rabbi Yochanan, lorsque j'apprenais la Torah chez Rabbi Yochanan à Chorani, j'ai vu qu'il mangeait du pain sec avec du sel, Bishne Batsoren, dans les années de famine. Bati Vodat Yetaba, j'en ai informé mon père, à Marli, il m'a dit de lui apporter des olives, l'olartilo, et je lui en ai apporté. Raotan Shen Lachin, du moment que Rabbi Yochanan à Chorani a vu que ses olives étaient humides, Amarli m'a dit, je n'ai pas l'habitude de manger des olives batives au datietaba. Je suis allé en informer mon père. Amarli m'a dit, l'herve morlo va lui dire, chavit nekuva aita, elache satmu hashmarim. Il s'agissait d'une cruche trouée, mais les déchets des olives ont bouché ce trou. Outlan, et il y a une Mishnah qui dit, Chavit shel zetim begulgalim, une cruche d'olives entassées qui donc font sortir un peu de jus. Bet Shammai Yomrim, en tzichal lakev, d'après Bet Shammai, il n'y a pas besoin de faire un trou dans la cruche. Ou Bet Yel Yomrim, tzichal lakev, et Bet Yel pense qu'il y a besoin de faire un trou. Ou Bodim, ils sont d'accord. Shim nikva, vestamua, shmarim, que si le propriétaire a fait un trou et que les déchets des olives ont bouché de ce trou, chez Itora, que ces olives ne sont pas encore aptes à devenir impures. On va d'abord expliquer la Mishnah de Outnan, après on reviendra pour comprendre le début de la Braïta avec l'histoire de Rabbi Elazar. Il y a cette sorte de liquide qui rend une nourriture apte à devenir impure. Le signe, c'est Yad Shachat Dam. Yud comme Yain, le vin, Dalet, de vache, c'est le miel de date, Shin, c'est Shemen, l'huile d'olive, Chet, c'est Chalav, le lait, Tet, c'est Tal, la rosée, Dalet, c'est le dam, le sang, et même, c'est Maïm, l'eau. Donc toute nourriture ne peut être rendue apte à devenir impure que lorsqu'elle a été humidifiée par un de ces sept liquides. Maintenant, si cette nourriture est humidifiée par un liquide qui n'intéresse pas leur propriétaire, cette nourriture ne sera pas encore apte à devenir impure. Donc, si dans notre cas, le propriétaire a fait un trou dans le récipient des olives, il a montré qu'il n'est pas intéressé par l'huile qui va sortir de ces olives. Et donc, elles ne seront pas aptes à recevoir une impureté, même si ce trou se bouche par la suite. Ça, c'est l'avis de Beth Hillel. Et Beth Shammai pense qu'on considère le liquide qui sort des olives compressées comme un simple jus de fruits et pas comme de l'huile. Donc ce liquide ne fait pas partie des sept liquides, et même si on ne fait pas de trou dans le récipient, ces olives ne sont pas encore aptes à devenir impures. Maintenant revenons à l'histoire du début. Rabbi Elazar ben Tzadok a apporté des olives à Rabbi Yochanan à Chorani, qui du moment qu'il a vu que ces olives étaient humidifiées par leur jus, il n'a pas voulu les manger de peur qu'un amaharet, c'est-à-dire un homme qui ne fait pas attention aux règles de pureté et d'impureté, ait touché l'extérieur de la cruche, et à ce moment-là, cette cruche est d'après Rabbanan impure, et donc rendra aussi impure les olives, et c'est pour ça qu'il ne voulait pas les manger. Et quand Rabbi Elazar ben Tzadok est revenu chez son père a compris pourquoi Rabbi Elazar ben Tzadok ne voulait pas ses olives, et il lui a envoyé pour lui dire, mais tu sais, même d'après Beth Hillel, cette cruche était trouée, et donc du fait qu'elle était trouée, le propriétaire de ces olives a montré qu'il n'était pas intéressé par le jus qui va sortir de ces olives, et donc ces olives ne sont pas encore aptes à recevoir l'impureté, et il n'y a rien à craindre. Je continue maintenant juste la braïta, va falpi chez Talmid Shamayaya, kolma asav lo asala kedivre bet Hillel. Et bien que Rabbi Yochanan Achorani était un élève de Shamay, il va appliquer dans la pratique que la vie de Bet Hillel, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu manger des olives, et c'est aussi pour ça que Rabbi Tzadok lui a envoyé dire que ces olives n'étaient pas aptes à recevoir une impureté du fait qu'il y avait une fois un trou dans la cruche. La Gemara dit, « Ia marta bishlama asu, aïnou rebouté. » Ça va bien, si tu me dis que Bet Shammai ont agi en fonction de leur avis, je comprends ce que la Braïta vient nous rajouter en nous précisant que Rabbi Yochanan ben Nouri n'agissait qu'en fonction de Bet Hillel. Et là, il y a marta lo asu, mais si tu me dis que Bet Shammai n'ont pas agi en fonction de leur avis et qu'ils se sont pliés à l'avis de Bet Hillel, qu'est-ce qu'on vient nous rajouter en nous précisant que même Rabbi Yochanan ben Nouri n'est pas sorti de la généralité de tous les élèves de l'école de Shammai? Et donc on a montré de cette braïta que Bet Shammai ont oui agi en fonction de leur avis. Tashma, la Gemara remporte une autre braïta. Shalot Rabbi Yeshua, ils ont demandé les élèves à Rabbi Yeshua, Sarat Abat Maou, quelle est la règle qui, pour la rivale de la fille qui tombe à Iboum devant le père de sa rivale. Amarem, il leur a dit, Machloket Bet Shammai Bet Hillel, c'est une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. De l'alakha qu'il y avait, ils lui ont demandé l'alakha est comme qui? Amalahem, il leur a répondu, Nipnema temach nissim roshi ben shne harim gdolim. Pourquoi est-ce que vous m'interférez entre deux grandes montagnes? Ben shne machlokot gdolot ben bet Shammai ou ben bet Hillel, entre deux grandes discussions entre bet Shammai et bet Hillel. Ntiareani, shema yarutsu gulgalati. J'ai peur, de peur qu'il vienne à écraser mon crâne. Avant l'animéi de la chem, al shtemish pachot gdolot, mais je peux vous témoigner sur deux grandes familles, shayoub Yerushalayim, qui étaient à Yerushalayim, mishpachat bet tzvouim mi ben amchai, la famille de la maison de tzvouim qui descend de amchai, mishpachat bet koupaï mi ben mekoshesh, et la famille de koupaï qui descend de Mekoshesh, Shem Bnei Tzarot, qu'ils descendent de rivales d'inceste qui se sont mariés avec un autre homme sans même recevoir la Khalitza suivant la vie de Bet Hillel, ou même Kohanim Gedolim, Veshim Shoal Gabe Mizbeach, et parmi eux il y a eu même des grands prêtres qui ont servi à l'autel. Et donc tu vois que la Halacha est comme Bet Hillel et que les descendants de ces rivales sont sans aucun défaut de famille. Et Rashi précise que par la suite, la Gemara va demander comment ça se fait que la question qu'ils ont demandé à Rabbi Yeshua était sur la rivale elle-même, et Rabbi Yeshua a répondu sur les descendants de la rivale. La Gemara dit, Amarta Bishlama Asu, Aino Dekamar Mityareani. Si tu me dis que Bet Shammai ont agi en fonction de leur avis, c'est pour cela que Rabbi Yeshua avait peur, mais étant donné que s'il dit que la halakha est comme Bet Hillel, il va considérer tous les enfants qui sont nés de Iboum que Bet Shammai permet avec la rivale d'inceste comme des mamzerim, mais il a peur que ces mamzerim en question viennent le tuer. Et là, il y a marta lo asu, mais si tu me dis que Bet Shammai n'ont pas agi en fonction de leur avis, Amai Kamar Mityareani, comment ça se fait qu'il a dit j'ai peur qu'on me tue? Il a rien à craindre. Oulé, il a mis des asu. Et même si tu me dis que Bet Shammai ont agi en fonction de leur avis, Mai Mityareani, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a peur qu'on le tue? Hama Rabbi Yeshua, en Mamzer el Amichaye Mitot Bedin. Pourtant Rabbi Yeshua a dit qu'il n'y a de Mamzerim que des interdits qui sont condamnés à une mort par le tribunal. Or, cet interdit de femme du frère lorsqu'il n'y a pas de hiboum est un interdit qui est seulement sanctionné par un karet et pas par une condamnation à mort du tribunal. Donc même si Rabbi Yeshua pense que la halakha est comme Bet Hillel, ces enfants qui sont nés du mariage des rivales d'inceste avec le Yabam ne sont pas considérés par Rabbi Yeshua comme des mamzerim. Et la Gemara répond, mais il a mis des mamzer lo ave, pas bon il y en avait. Bien que pour Rabbi Yehoshua, ses enfants nés de l'union entre le Yavam et la rivale d'inceste ne seront pas considérés comme des mamzerim, mais ils seront comme, ils ont quand même un défaut de famille, en cela qu'ils ne pourront ni servir comme prêtres au temple, ni se marier avec des Kohanim. Et ça, on apprend, Mikavachomer Mialmanat, un raisonnement a fortiori de la veuve qui est interdite de se marier avec le grand prêtre. Et on apprend, Mialmanat, Shehen Issoura, Noek Bakol, si déjà la veuve ou son interdit ne concerne qu'une seule personne, le grand prêtre, Bnapagoum, l'enfant qu'elle aura avec le grand prêtre sera considéré comme avec un défaut de famille. Zouche et Isora Chavebakol, cette femme, c'est-à-dire cet interdit de femme du frère, qui est un interdit qui concerne tout le monde, n'est-ce pas a fortiori que l'enfant qui va naître de cette union sera au moins avec un défaut de la même manière que l'enfant de la veuve avec le Kohen Gadol. Donc on va expliquer la Braïta. Tu, la Gmara demande, Kaba ou Mine Tsarot, Vekapa Chitle, Vene Tsarot, ils ont demandé à Rabbi Yeshua quelle est la règle des rivales elles-mêmes, et lui leur a dit quelle est la règle des enfants des rivales lorsqu'il leur apporte le cas de deux grandes familles de Yerushalayim qui ont servi comme grands prêtres. On va répondre au Tarte Kabaé. Ils lui ont demandé les deux questions. Tsarot, Maï, qu'est-ce qu'on fait avec les rivales? Et si tu veux me dire que pour les rivales, on suit l'avis de Beth Hillel et elles ne sont pas concernées par le hiboum, Bletzarot de Beth Hillel, les Beth Shammai et Maou, comment Beth Shammai vont-ils considérer les enfants des rivales d'inceste qui se sont mariés avec un autre homme sans Khalitza en suivant l'avis de Beth Hillel? Et là-dessus, la Gemara demande, les Maïnaf Kamina, pour quelle raison ont-ils demandé cette deuxième question? Si la halakha est comme Beth Hillel, il nous importe peu de savoir ce que Beth Shammai pense des enfants qui naissent de cette femme qui s'est remariée sans Khalitza. Et la Gemara répond, le Mifchat, Vlad, Marzir Grouchato, les Beth Hillel. Pour trancher le statut d'un enfant né de l'union interdite d'un homme avec son ancienne femme, qu'il a divorcé et qui s'était remarié entre temps. Comme on l'avait vu précédemment, il y a un interdit pour un homme, lorsqu'il a divorcé sa femme et qu'elle s'est remariée, de se remarier avec elle. Il s'agit d'un interdit simple, du même ordre que celui qu'a une femme qui est liée à son Yavam, de se marier avec un autre homme. Et donc, si on sait comment Beth Shammai considère cette femme qui, en suivant l'avis de Beth Hillel, s'est remariée sans Khalitza, alors que pour Beth Shammai, elle devait faire Khalitza pour se marier avec un autre homme, on saura aussi quel sera le statut de l'enfant né de celui qui s'est remarié avec son ancienne divorcée. Et quelle est la question qu'ils lui ont demandé? Mika Amrinan, Kalva Chomer. Est-ce qu'on va apprendre un raisonnement a fortiori qui est Ouman, maintenant le Kohen Gadol, Shehen Issoura Chavebakol, Vna Pagoum. Si déjà la veuve qui est interdite au grand prêtre, par un interdit qui ne concerne que le grand prêtre, l'enfant qui va naître de cette union, sera considéré comme un enfant avec un défaut de famille, qui sera interdit pour les Kohanim. Zou Shehen Issoura Chavebakol, cette femme qui était divorcée et qui est maintenant interdite de se remarier avec son mari, qui est un interdit qui concerne tout le monde, Enodin Shebna Pagoum, est-ce qu'on va pas dire que son fils, le fils qui va naître de cette union, sera avec un défaut de famille, Odilma, ou bien, Ikalami Frach, on pourra objecter à ce raisonnement, Mal et Almana Shiyatzma Mitchalelet, que cette veuve devient elle-même, après avoir eu un rapport conjugal avec le grand prêtre, Chalala, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus se marier avec un Kohen, même si elle devient veuve de ce grand prêtre, et si elle appartenait à une famille de Kohanim, elle ne pourra pas non plus manger de la Trouma, tandis qu'une divorcée est de toute façon déjà interdite au Kohen. De plus, on apprend d'Afsa Martet que pour les cas 2. Celui qui se remarie avec sa femme divorcée alors qu'elle s'était remariée, ainsi que pour la femme en attente du hiboum qui a eu un rapport avec un étranger, la relation conjugale interdite ne rend pas la femme inapte à la trouma. Et donc on a deux questions qu'ils ont demandé à Rabbi Yehoshua. Première question, quel sera le règlement de ces rivales d'inceste? Et deuxième question, comment est-ce que Beth Shammai considère les enfants qui naissent de cette union de la rivale d'inceste avec un autre homme alors qu'elle n'a pas eu Khalitza? Et là-dessus, il leur a répondu, Tsarot, Mitiareani, pour les rivales elles-mêmes, j'ai peur de la réaction de ceux qui ont suivi l'avis de Beth Shammai, car je les considère comme ayant un défaut de famille.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.